Leçon 11.
Deux grands hommes dans l'histoire contemporaine. 1. Le président au travail. Depuis que la République s'y était installée, l'Élysée avait toujours été calme. L'étonnant est qu'il soit resté, une fois devenu le centre du pouvoir. Ce fait tient tout entier à la personnalité du général.
Si de Gaulle n'arrivait qu'à 9h45 dans son cabinet de travail, c'est qu'il avait pris le temps de lire dans son appartement la presse du matin. Il trouvait sur son bureau les dossiers des affaires courantes les plus importantes, les télégrammes diplomatiques, affaires étrangères et communautés, une documentation en vue des prochains conseils, des notes sur les visiteurs qu'il aurait à recevoir, des rapports sur les affaires militaires, sur les sujets d'actualité. Il avait une préférence pour les synthèses hebdomadaires qui permettent de prendre un certain recul par rapport à l'événement et d'en dégager l'essentiel. Une fois mis de côté les documents qui nécessitaient une étude plus poussée, de Gaulle communiquait éventuellement et brièvement à qui de droit les observations qu'appelaient les autres.
La matinée du mercredi était consacrée au conseil des ministres. D'autres voyaient se dérouler les conseils restreints. Des entretiens avec le Premier ministre, que le chef de l'État recevait en tête-à-tête deux fois par semaine, ou avec les membres du gouvernement, particulièrement le ministre des Affaires étrangères, des Finances et des Armées.
Peu avant 13h, le général quittait son bureau pour aller déjeuner et y revenait avant 15h. Il parcourait alors la presse de l'après-midi, puis commençait les audiences accordées aux personnes de l'extérieur. Le général avait souhaité les bloquer sur deux après-midi par semaine pour en réserver trois autres au travail solitaire. Il n'y parvint pas sans peine, étant donné le nombre des visiteurs et la multiplicité de ses obligations. Les remises de lettres de créances, particulièrement nombreuses pendant les premières années à cause de l'accession à l'indépendance des pays africains, grignotaient souvent une partie des après-midi réservés. Néanmoins, quand il s'agissait de composer un discours, de préparer une décision importante, le général entrait en loge et condamnait sa porte à tout le monde.
Quand il en avait le loisir, de Gaulle retournait un instant dans son appartement vers 17h pour y prendre une tasse de thé, puis revenait dans son bureau pour s'entretenir à partir de 17h45 avec ses quatre principaux collaborateurs, l'un après l'autre, et signer son courrier. À 20h, ayant libéré son aide de camp, il se retrouvait dans son appartement. Claude Dulon, La vie quotidienne à l'Élysée au temps de Charles de Gaulle.
Une des dernières apparitions de Chuan Lai en public. Un de mes souvenirs les plus tristes et les plus émouvants, c'était à Pékin, lors de la cérémonie de la fête nationale. On donnait un banquet le 30 septembre 1974 pour le 25e anniversaire. On nous avait laissé entendre que Chuan Lai, bien que malade, sortirait peut-être de l'hôpital et viendrait au Palais des Congrès. Il vint, en effet, et ce devait être l'une de ses dernières apparitions en public. Le repas fut plus court que celui des autres années. Sans doute entendait-on ménager la santé du Premier ministre. Les invités sont tous assis depuis 10 minutes lorsqu'un mouvement se produit au fond de la grande salle latérale. La fanfare éclate et le cortège s'avance lentement, Chuan Lai en tête. Alors, la salle entière explose dans une frénésie d'applaudissements. Chuan Lai, comme tous, frappe une paume contre l'autre.
Je vois Chuan Lai d'assez près. Il est en tunique sombre. C'est presque au début du banquet qu'il s'est levé pour prononcer l'allocution, et celle-ci a été bien courte cette année. Immédiatement, et avant même que le Premier ministre ne parle, les applaudissements reprennent avec intensité. Trois ou quatre fois, il lève sa feuille et s'apprête à parler, puis baisse le bras. Il attend que le silence se fasse, mais l'ovation continue. Un sentiment profond porte l'immense foule chinoise vers cet homme.
Certes, un homme remarquable, un homme exceptionnel. Le général de Gaulle l'avait invité à faire une visite officielle dans notre pays. Après la fin de la Révolution culturelle et 5 jours avant sa démission, le président de la République tenait toujours à ce projet et me priait d'en favoriser la réalisation. Je puis donner le témoignage que ce n'est point le désir qui manquait au Premier ministre. Il avait conservé un profond souvenir du Paris de ses 22 ans, capitale de la Révolution française et de la Commune. « Vous êtes un peuple qui aime la liberté », me disait-il un jour. « Quand j'étais en France, j'ai constaté avec plaisir, partout dans les rues, qu'on respecte chez vous l'égalité des races. » Et il ajoutait malicieusement, « Mais vous avez encore des progrès à faire. Vous êtes loin d'avoir réalisé l'égalité sociale. »
Non, ce n'est pas le désir de venir en France qui manquait à cet homme. Tout simplement, le général de Gaulle venait de mourir. Les choses n'étaient plus tout à fait comme avant. D'autre part, la charge de l'État chinois était lourde à assumer dans une époque critique.
L'héritage est là. La Chine est debout et ne se couchera pas. Son peuple est l'un des plus éveillés de la terre et ne s'endormira plus. Son socialisme, invention qui n'a pas de modèle, est une incessante recherche.
L'homme qui vient de mourir était un homme complet. Son exemple déborde les frontières de la Chine. Le monde entier, et surtout les gens pauvres et fiers, ne peuvent plus que pleurer cette grande ombre modeste et fraternelle. Le patricien en sandales, par l'ex-ambassadeur de France en Chine, Étienne Manac.
Vocabulaire.
L'Élysée.
L'étonnant.
Tenir à.
La personnalité.
Un cabinet de travail.
Un dossier.
Courant, courante.
Une communauté.
La documentation.
En vue de.
Un conseil.
Avoir une préférence pour.
Une synthèse.
Un recul.
Un événement.
Dégager.
Nécessité.
Une étude poussée.
Communiquer.
Éventuellement.
Brièvement.
Acquis de droit.
Une observation.
Se dérouler.
Restreint, restreinte.
Un entretien.
En tête à tête.
Particulièrement.
Les finances.
Parcourir.
Une audience.
Accorder.
Bloquer.
Solitaire.
Parvenir à.
Étant donné.
La multiplicité.
Une obligation.
La remise.
Une lettre de créance.
Une accession.
Une indépendance.
Grignoter.
Néanmoins.
Composer.
Un discours.
Une loge.
Condamner.
Condamner sa porte à.
S'entretenir.
Un collaborateur.
Un aide de camp.
Au temps de.
Une apparition.
Lors de.
Une cérémonie.
Un banquet.
Laisser entendre à quelqu'un que.
Le palais des congrès.
Un congrès.
Entendre faire quelque chose.
Se produire.
Latéral, latéraux.
La fanfare.
Un cortège.
En tête de quelque chose.
Une frénésie.
Un applaudissement.
Une paume.
Une tunique.
Une allocution.
Immédiatement.
Une intensité.
Une ovation.
Un sentiment.
Immense.
Certes.
Remarquable.
Exceptionnel.
Officiel.
Une démission.
Favorisé.
Une réalisation.
Un témoignage.
Conservé.
La Révolution française.
La Commune de Paris.
La liberté.
Respecté.
L'égalité.
Une race.
Malicieusement.
Être loin de faire quelque chose.
Une charge.
Assumer.
Critique.
Un héritage.
Éveillé.
Une invention.
Un modèle.
Incessant, incessante.
Complet, complète.
Déborder.
Pleurer.
Une ombre.
Modeste.
Fraternelle.
Un patricien.
Des sandales.
Un ex-ambassadeur.
Manac.
Il n'y a aucun génie qui n'ait été persécuté.
Lecture. De Gaulle à l'Élysée. Donc, une journée de 10 heures de travail, de 13 ou 14, quand elle était suivie d'une soirée officielle, et cela pendant 10 ans et 4 mois, sans oublier les 6 mois précédemment passés à l'hôtel de Matignon. C'est sur cette distance, jamais parcourue pour un président de la République et par un président responsable, qu'il faut juger de l'activité du général et de son endurance. Encore n'ai-je décrit que les journées ordinaires. Si bien organisé et protégé que fut le chef de l'État, il y avait quand même des imprévus et des drames, sans parler des voyages qui faisaient s'accumuler les dossiers et de toutes les activités de représentation qui, à elles seules, pouvaient épuiser les forces d'un président et dont tous les prédécesseurs du général avaient déploré le poids.
Aussi, seules les statistiques établies par le cabinet peuvent nous donner une idée précise des tâches accomplies par de Gaulle. En l'année 1964, par exemple, qui fut une année de calme, c'est-à-dire sans élection et sans crise majeure, il présida 121 conseils, accorda 746 audiences, reçut 7 chefs d'État ou de gouvernement en visite officielle. Il composa et prononça 67 discours ou allocutions, tint 2 conférences de presse de 2 heures chacune et dont les textes occupent respectivement 20 et 17 pages. Il accomplit 41 sorties officielles dans la capitale, 5 déplacements à l'intérieur du pays, 15 voyages à l'étranger ou dans la France d'outre-mer, parmi lesquels une tournée de 3 semaines et de 30 000 kilomètres dans 10 pays d'Amérique. C'est dans cette même année, année 1964, que fut organisé le commandement des forces nucléaires stratégiques, placées sous l'autorité directe du président, que furent institués et mis en place les préfets de région et les commissions de développement économique régional. C'est encore en 1964 que furent établies les relations diplomatiques avec la Chine populaire. Claude Dulon, La vie quotidienne à l'Élysée, au temps de Charles de Gaulle.
Vocabulaire.
L'hôtel Matignon.
Une endurance.
Fut.
Un imprévu.
Un drame.
S'accumuler.
Épuiser.
Un prédécesseur.
Déplorer.
Les statistiques.
Établir.
Une élection.
Une crise.
Majeure.
Présider.
Une conférence de presse.
Un déplacement.
La France d'outre-mer.
Une tournée.
Nucléaire.
Stratégique.
Une autorité.
Instituée.
Un préfet.
Une commission.